Bonjour Frans Timmermans.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes premier vice-président de la Commission européenne. Vous avez été également ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas. Vous intervenez en direct de Bruxelles et les auditeurs de France Inter vous interpellent au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux via l'application France Inter. Frans Timmermans, Emmanuel Macron parlait hier soir dans son allocution d'un retour brutal du tragique dans l'histoire. Diriez-vous ce matin que le projet européen tel qu'il a été dessiné au moment du traité de Rome en 1957, que ce projet est mort et qu'il a, depuis le début de la guerre en Ukraine, changé complètement de nature?
Bon, je crois que, comme toujours, c'est l'histoire qui fait l'Europe, c'est pas l'Europe qui fait l'histoire. Donc l'histoire a changé depuis une semaine, l'histoire de l'Europe a changé à cause de l'agression de Poutine, à cause de la guerre qu'il a commencé avec l'Ukraine, et l'Europe doit y répondre. Et je crois que jusqu'à présent, l'Europe est à la hauteur de ce défi. On est unis, on a créé une unité que je n'ai pas vue depuis très très longtemps. On a des leaders qui sont aussi à la hauteur de la tâche, le président de la République, le chancelier allemand, qui ont le premier ministre italien, qui ont démontré savoir agir dans des circonstances très compliquées. Donc je crois que c'est un moment important pour l'Europe. On doit montrer à nos citoyens qu'on est à la hauteur de ce défi qui est énorme, hein, qui est historique, et ça va durer, ça va être compliqué, mais je crois que nos valeurs, notre démocratie, ils sont beaucoup plus forts que elles sont beaucoup plus fortes que ce que propose Monsieur Poutine.
Mais est-ce qu'on ne doit pas la situation actuelle tout de même à la faiblesse passée des Européens? Nous avons refusé de devenir une puissance militaire, Poutine en profite et l'Ukraine en paye le prix.
Je crois que on a longtemps cru à un développement démocratique, un développement sur la base de nos valeurs sur tout le continent européen. C'était la promesse de 89, mais c'est une promesse qui s'est accomplie pour pas mal de pays de l'Europe de l'Est, mais malheureusement Poutine a mené la Russie dans une autre direction. On aurait pu le savoir, on aurait dû réagir plus clairement. On a maintenu une certaine naïveté en croyant que à travers le commerce, à travers les relations économiques, on aurait une influence sur la direction de la Russie. C'est avéré faux. Je suis convaincu, j'ai habité en Russie, j'ai travaillé en Russie pendant 3 ans. Je suis convaincu que les Russes, ils veulent vivre comme nous. Ils partagent pas mal des valeurs que nous avons. Presque toutes les valeurs que nous avons, ils les partagent. Mais ils sont gérés par un homme qui a une vision du monde qui est complètement contraire à nos valeurs. Donc il faut vraiment qu'on bloque ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement l'Ukraine qui est jouée, le futur de l'Ukraine qu'on joue aujourd'hui, c'est le futur de l'Union européenne, c'est le futur de notre continent.
Frans Timmermans, le doux commerce ne suffit pas, hein, vous venez de le dire. Un des premiers sujets du sommet européen des 10 et 11 mars, ça va donc être l'Europe de la défense. Qu'en pensez-vous? Maintenant c'est clair, est-ce qu'il faut que l'Europe change de braquet sur sa capacité à se défendre?
Absolument, c'est aussi un investissement dans nos relations avec les États-Unis. On a eu de la chance qu'on a un président aux États-Unis qui veut comprendre l'Europe, qui a donné aussi de l'espace aux dirigeants européens pour essayer de trouver une issue avec Poutine. Et je salue les efforts de Macron, je salue les efforts de Scholz. Ils sont allés jusqu'au bout pour essayer de convaincre Poutine. Biden leur a laissé l'espace pour le faire. Les Américains nous ont avertis, ils étaient bien au courant. Biden a utilisé son ministre des Affaires étrangères d'une manière, je crois, vraiment excellente. Donc, investir dans la défense européenne, c'est aussi investir dans les relations transatlantiques.
En attendant, Frans Timmermans, on n'a qu'une arme, ce sont les sanctions économiques. Si ça ne dépendait que de la France, nous serions probablement allés plus loin, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie français. Et ce qui est sûr, c'est qu'au final, il y a seulement 7 banques russes qui sont coupées, qui seront coupées de la messagerie SWIFT, et certainement pas celles qui permettent d'acheter du gaz et du pétrole. Est-ce que là, on n'essaie pas de brandir une arme, mais avec les mains liées, puisque nous sommes toujours dépendants de cette énergie russe?
Je ne crois pas. Je crois qu'on est allé assez loin. On est allé très loin avec ces sanctions. On a encore quelques armes à notre disposition pour aller au-delà de cela. La banque la plus importante
en Russie,
c'est la banque la plus importante en Russie, c'est Sberbank. On pourrait aussi mettre Sberbank dans le jargon désuifter Sberbank, c'est encore une possibilité. Et nous mettrons, la Commission européenne mettra sur la table une proposition la semaine prochaine pour créer une situation où on n'est plus dépendant de l'énergie provenant de la Russie. Donc il faut quand même qu'on aille beaucoup plus vite dans la direction des renouvelables. Il faut qu'on produise notre propre énergie en Europe. C'est possible, ça prendra du temps, mais maintenant, avec l'agression qu'on a vue, il faut aller beaucoup plus vite.
Plus de renouvelables, plus de nucléaire aussi. Le gouvernement allemand, dont les Verts, envisage désormais de prolonger certaines de leurs centrales nucléaires. C'était complètement inenvisageable pour eux il y a seulement quelques jours.
Moi, je salue le fait que le gouvernement allemand a dit clairement, dans cette situation, il n'y a plus de tabou. Il faut quand même assurer l'approvisionnement d'énergie pour les Européens, pour notre industrie, mais surtout pour nos citoyens. Et donc, je salue vraiment ce développement parce que les Allemands, il faut pas sous-estimer le virage qu'ils ont fait dimanche dernier quand le chancelier a annoncé une politique radicalement différente pour protéger les intérêts de nos citoyens.
Franz Timmermans, vous parlez de sanctions qui vont être supplémentaires, qui peuvent être mises sur la table par les Européens. En attendant, donc, nous fournissons en hydrocarbures russes. Et Vladimir Poutine, qui subit des sanctions européennes, n'a pas coupé le gaz. Est-ce qu'à cette heure, vous dites que tout est possible et vous vous préparez pour les Européens à des mesures de rétorsion ?
Tout est possible. Rien n'est laissé en arrière. Et nous sommes préparés, nous sommes à la hauteur de la tâche, nous pouvons protéger les intérêts de nos citoyens, même s'ils coupent l'énergie.
Comment ?
Parce qu'on a pour le court terme, on a encore des réserves et on a aussi de nouveaux contrats avec d'autres fournisseurs, les États-Unis, et on est en train de négocier des contrats avec d'autres fournisseurs dans le Golfe et dans d'autres parties du monde. Donc l'Europe sera à la hauteur de cette tâche, mais en même temps, il faut quand même dire, les sanctions qu'on a imposées jusqu'à présent fonctionnent. Ils font beaucoup de mal aux dirigeants russes, et ils font beaucoup de mal aux oligarques qu'il faut vraiment frapper par ces sanctions, et surtout les mesures prises vis-à-vis de la Banque centrale ont un effet immédiat sur l'économie russe.
Il y a aussi un effet immédiat ou presque, qui va arriver sur les économies européennes. Que peut faire Bruxelles pour protéger les citoyens de la hausse des prix ?
Premièrement, il faut on fera une proposition parce que le président de la République a annoncé le sommet la semaine prochaine,
d'ici
11 mars. Pour ce sommet, il faut quand même que la Commission européenne mette sur la table une proposition pour la crise énergétique. On le fera. Et en même temps, je crois que le président de la République annoncera aussi un débat sur comment est-ce qu'on peut ensemble protéger les intérêts de nos citoyens. La première tâche de toute autorité, c'est de protéger ses citoyens contre la violence. Et je suis sûr, si on n'arrête pas Poutine, il continuera. Il mettra en danger la sécurité des pays de l'OTAN, de nos partenaires européens, de la Pologne, des pays baltes. Et une agression vers les Pays-Bas, c'est une agression vers la France, vers les Pays-Bas, vers tout autre pays. Donc on est dans ce combat, on est ensemble, on n'est pas en guerre, comme l'a dit aussi le président de la République, avec la Russie, pas du tout. On n'est surtout pas en guerre avec la population russe, parce qu'elle ne partage pas les idées farfelues du président Poutine. Il a fait foi d'un aventurisme qui n'est pas voulu par ses propres citoyens. Donc il faut aussi penser aux Russes qui ne veulent pas cette guerre, mais il faut aussi penser à aider les Ukrainiens à faire face à cette agression.
Mais sur la question du pouvoir d'achat, Franz Timmermans, en France, ça passe par le quoi qu'il en coûte, qui va être donc prolongé dans les prochaines semaines, ce qui creuse les déficits. Dans ce contexte, est-ce qu'il faut prolonger la suspension des règles de rigueur budgétaire de l'Union européenne en 2023, l'an prochain ?
Nous avons déjà dit de la part de la Commission européenne que dans cette situation, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans une situation extraordinaire et que les règles qui ne sont pas créées pour des situations extraordinaires doivent être appliquées avec la flexibilité que nous avons dans ces règles. Donc ça veut dire que maintenant, il faut quand même, premièrement, protéger les intérêts de nos citoyens, mettre tout en œuvre pour éviter une hausse des prix et assurer nos citoyens que nous sommes à leur côté, que l'Union européenne est une union qui peut les protéger. Soyons clairs, hein, c'est une atteinte directe à notre sécurité et il faut réagir et on le fera ensemble en tant qu'Européens.
Il y a un certain nombre de grands groupes qui ont déjà décidé, Frans Timmermans, de se retirer de Russie. Je pense à BP, je pense à Shell, à Apple, à Nike. De son côté, Total, pour l'instant, reste en Russie. Est-ce que c'est une faute selon vous ?
Bon, c'est à Total de décider, mais j'espère quand même que Total tire les mêmes conclusions que les autres et fasse la même démarche que les autres, parce que il faut quand même envoyer un signal très clair. Un pays qui agresse un autre pays pacifique, un pays démocratique qui n'a rien fait pour causer cette agression, ce pays devra être puni, et pas uniquement politiquement, mais aussi de façon économique.
Il y a à cette heure en Ukraine des pourparlers, enfin on parle de pourparlers mais sans cesser le feu, tout au contraire, les bombes pleuvent et il est possible que le pire soit devant nous, ça c'est ce que dit ce matin le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Vu de Bruxelles, est-ce que c'est aussi ce que vous pensez, le pire est peut-être devant nous en Ukraine, devant les Ukrainiens ?
Oui, parce qu'on a affaire à un homme qui est complètement hors du normal, qui a violé toutes les règles fondamentales des relations internationales, qui ne s'arrêtent à rien. On l'a déjà vu en Syrie, on l'a vu en Tchétchénie, il a complètement détruit Grozny. Le risque est toujours que Poutine s'arrête à rien. Et donc, il faut se préparer à tout, il faut se préparer à toute éventualité. Et je veux assurer tout le monde que nous sommes à la hauteur à la Commission européenne, mais surtout, nos dirigeants, nos présidents, nos premiers ministres sont unis dans leur approche qui est, je crois, très claire et qui nous donnera la possibilité de protéger les intérêts de nos citoyens.
Vous dites qu'il ne s'arrête à rien et vous l'avez côtoyé, je crois, en tant que diplomate. Est-ce que la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine, vous la prenez très au sérieux à Bruxelles ?
Bon, aujourd'hui, je prends tout très au sérieux, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Je l'ai connu depuis 91, quand j'étais diplomate à Moscou. Il était député du maire de Saint-Pétersbourg, donc j'ai eu affaire avec lui beaucoup de fois aussi en tant que ministre des Affaires étrangères. Vous vous souvenez, en 2014, ils ont abattu un avion commercial, 296 personnes innocentes ont été tués. Donc j'ai eu beaucoup à faire avec eux. J'ai habité dans le pays, mais je ne le reconnais plus. Ce n'est plus le même Poutine que j'ai connu même il y a 8 ans ou 7 ans. Il s'est complètement enfermé dans son idéologie de reconstruction de l'Empire russe. Une idéologie qui, je vous assure, n'est pas partagée par la population russe.
Mais pourquoi s'arrêterait-il ?
Pardon ?
Pourquoi s'arrêterait-il ? Le portrait que vous nous dressez de Vladimir Poutine est un portrait d'un homme qui n'a pas l'intention de stopper son offensive, quelles que soient les menaces et les mesures de rétorsion.
Oui, bon, la structure de pouvoir en Russie est une structure pyramidique, pyramidale, donc il contrôle tout le pays, mais il n'est pas le seul. Et j'espère quand même que ceux autour de lui qui, je sais, sont pas d'accord avec cette approche, prennent des mesures pour l'arrêter à un certain moment. Parce que la Russie, c'est un paria dans des relations internationales maintenant. La Russie, Poutine a enlevé la Russie de la communauté internationale. Et c'est très sérieux, et c'est pas ce que veulent les Russes, ni les citoyens, ni les autres dirigeants.
Est-il si isolé que vous le dites, hein ? Hier, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine, le Sénégal, l'Algérie, le Mali n'ont pas voté la résolution des Nations Unies.
Non, mais ils se sont abstenus pour des raisons que j'ignore, franchement. Mais les seuls qui ont voté contre, ce sont quand même les voyous qui soutient. La Biélorussie, la Syrie, d'Assad, etc. Donc la Venezuela, etc. Ce sont pas les pays où il y a un état de droit, des pays démocratiques, ce sont des pays autocratiques qui sont soutenus par le régime de Poutine. Donc du reste, il y a eu des abstentions, mais du reste, le monde est uni à condamner cette agression.
Alors l'Ukraine appelle à l'aide, Frans Timmermans, et elle demande par la voix de son président à adhérer à l'Union européenne sans délai. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Bon, c'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Ce que je vois très clairement, bon, je connais le pays assez bien, j'ai beaucoup passé de temps là-bas, c'est ces drapeaux bleus avec ces étoiles jaunes. Ils font ça parce que ils croient dans nos valeurs. Ils veulent appartenir à notre Europe des valeurs, notre Europe de la démocratie, notre Europe d'une ouverture. Et je vois dans l'ambition de devenir un membre de l'Union européenne l'expression de ce sentiment. Mais il faut quand même dire une adhésion à l'Union européenne, c'est de très longue haleine. On l'a vu déjà. C'est très difficile, c'est compliqué, c'est juridiquement compliqué, c'est économiquement compliqué. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les aider directement avec du soutien militaire, avec des moyens militaires, c'est-à-dire des armes, etc. Il faut les soutenir avec des aides économiques, etc. etc. Un débat sur l'adhésion à l'Union européenne, je comprends ce débat, je comprends aussi l'espoir qu'ils ont de joindre l'Union européenne, mais c'est de très longue haleine.
Nous accueillons Marc sur l'antenne de France Inter, Marc qui nous appelle du département du Nord. Bonjour.
Bonjour Jérôme Cadet, bonjour Monsieur Timmermans.
Bonjour.
Depuis dimanche, la riposte de l'Union européenne vis-à-vis de l'agression russe est massive. Mais il me semble qu'elle aurait été plus efficace si la résistance à Poutine avait été plus précoce et plus coordonnée. Est-ce qu'il n'en est pas de même vis-à-vis du changement climatique ? Trop tard et en ordre trop dispersé. On parlait tout à l'heure de la fourniture d'énergie et du nucléaire. J'espère que cette guerre russe ne va pas être l'occasion de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que l'énergie nucléaire a d'abord été utilisée comme une énergie de mort.
Merci Marc pour cette question. Frans Timmermans.
Oui, il faut quand même reconnaître que la crise climatique est liée à ce conflit. Parce que les Russes ont un problème gigantesque avec la disparition du permafrost dans le nord de la Russie. Ils ont un problème gigantesque avec les récoltes qui ne sont pas bonnes. Et étant donné que leur économie dépend complètement des hydrocarburants, ils n'ont pas d'idée quoi faire quand l'Europe n'aura plus besoin des hydrocarburants, quand on aura fait cette transition énergétique. Et ça cause un malaise, ça cause une peur dans le système russe. Et c'est aussi à la base de cette agression qu'on voit maintenant. Mais je dirais qu'il faut quand même reconnaître, on a vu encore un rapport de l'ONU ces derniers jours, que la crise climatique est avec nous et qu'il faut agir avec encore plus de vitesse dans la transition énergétique, dans la transition économique. Il faut utiliser le numérique pour renforcer notre résilience, pour renforcer notre capacité de créer des emplois pour nos citoyens. Et il faut le faire maintenant.
Frédéric nous appelle à une question pour vous, Frans Timmermans. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous, Monsieur Timmermans, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dit vous-même que l'agression russe était une agression directe contre l'Europe. Alors j'aimerais savoir si au-delà des sanctions économiques, est-ce que l'Europe a une stratégie commune, concertée, au cas où ces sanctions économiques ne suffiraient pas, à arrêter Poutine parce que les morts s'ajoutent aux morts. Et en fin de compte, y a-t-il une ligne rouge que l'on pourrait les fixer à ne pas dépasser ?
Merci à vous Frédéric.
Oui, la ligne rouge, bien sûr, est établie dans notre participation à l'OTAN. C'est-à-dire qu'une agression vers les pays de l'OTAN, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie, serait une attaque directe sur la France, sur les Pays-Bas, sur les autres pays, et on sera à la hauteur de réagir. Et il faut être très clair là-dessus, parce que je suis convaincu que Poutine, s'il n'est pas arrêté, ne s'arrêtera pas.
Question de Céten nous sollicite via les réseaux sociaux, l'application France Inter, un peu sur le même thème. Vous dites, monsieur Timmermans, que l'Europe réagit, oui, mais on laisse le peuple ukrainien se faire massacrer en disant qu'on ne peut pas intervenir en Ukraine. Pour quelle raison ?
Pour la raison qu'une intervention qui nous mettrait en conflit direct armé avec les Russes aurait la possibilité de nous mener dans une guerre ouverte avec la Russie, ce qui est une chose qui aurait des conséquences imprévisibles. Donc c'est impossible pour nous de nous engager directement militairement en Ukraine. Les Ukrainiens le savent, on l'a dit dès le début, les conséquences seraient imprévisibles et incontrôlables, donc on ne peut pas le faire.
Mais livrer des armes, ça ne laisse pas courir ce type de risque d'escalade, justement ?
Peut-être, mais l'Ukraine, c'est un pays souverain qui a le droit de se défendre et on a le droit de donner un soutien matériel à la défense de ce pays, parce que je vous signale que les armes qui sont fournies par maintenant 27 pays sont des armes qui leur donnent la possibilité de se défendre contre les chars et contre les avions.
Le nombre de réfugiés ukrainiens ne cesse d'augmenter. Ils sont 1 million à avoir fui le pays et franchi la frontière depuis une semaine. Franz Timmermans, est-ce que l'Europe va leur ouvrir grand les bras, grand ses frontières? Et est-ce que là, on a un consensus qu'on n'a pas vu quand les réfugiés fuyaient d'Afghanistan ou de Syrie?
Oui, oui. C'est comme ça.
Pourquoi je
vois une solidarité énorme en Union européenne. Je vois que les images qui proviennent de l'Ukraine, la proximité du pays, le sentiment que c'est l'Europe qui est agressée directement, a créé un sentiment de solidarité à travers l'Union européenne qui me réchauffe le cœur, en vrai, à vrai dire.
Mais une solidarité à plusieurs vitesses quand on compare à la manière avec laquelle nous avons pu accueillir les Afghans ou les Syriens il y a quelques mois ou quelques années.
Oui, mais c'est dans la nature humaine qu'on se sent plus engagé dans des conflits qui sont à proximité. C'est comme ça. Ce qui compte maintenant, c'est que la solidarité que je vois se trouve dans tous les pays de l'Union européenne, que tout le monde est préparé à faire de son mieux. Il n'y a aucun doute que les réfugiés qui viennent maintenant sont des réfugiés qui fuient la destruction complète entamée par Poutine. On a vu ce qui se passe avec les enfants, les femmes, les personnes âgées. Et on veut montrer notre solidarité. C'est une bonne chose. Et bien sûr, on peut comparer ça avec d'autres situations. Mais moi, je veux quand même mettre l'accent sur le fait que maintenant, l'Europe entière se montre solidaire.
Merci à vous, Franz Timmermans, d'avoir accepté l'invitation de France Inter ce matin.
Avec plaisir.
Premier vice-président de la Commission européenne, vous interveniez en direct de Bruxelles.